Passer à l'action. La coordination du traitement pour la réussite du cabinet dentaire, Dr Anne-Marie Gorsica. Anne-Marie Gorsica est orthodontiste depuis plus de 25 ans et professeure adjointe de la prestigieuse Arthur A. Dugoni School of Dentistry. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages à succès sur la gestion et la croissance du cabinet dentaire, dont At Your Service, que nous avions déjà traité. Dans le présent ouvrage, elle postule qu'il n'est pas nécessaire d'investir un centime pour développer son cabinet, mais qu'il suffit de passer à l'action, c'est-à-dire d'implémenter les 20 conseils répartis en trois grandes orientations qui composent cet essai. Première partie, l'engagement. Chapitre 1, prospection. Chaque jour, nous avons des occasions en or de transformer des inconnus en amis et des visiteurs en patients. La prospection dans la coordination du traitement consiste en tout ce qui se passe avant que le patient dise oui et commence le traitement. Les nouveaux patients, soit téléphone au cabinet. Ne sous-estimez jamais la valeur de votre réceptionniste téléphonique. Les nouveaux appels de patients sont la pierre angulaire de votre patientèle. Ils envoient un email ou un SMS au cabinet. Pouvez-vous faire plus pour diriger les nouveaux patients vers votre site? Combien de contacts recevez-vous par mois à partir de votre page web? Faites-vous figurer votre URL sur tous les supports imprimés et numériques ainsi que sur votre signature électronique. Un simple « visitez-nous à » plus votre URL peut vous aider. Ils entrent dans le cabinet. Les visites sans rendez-vous sont une grande opportunité pour acquérir de nouveaux patients. Considérez toutes les visites sans rendez-vous, vendeurs, passants, membres de la famille ou amis des patients, comme de nouveaux amis et de nouveaux patients potentiels. Et enfin, ils arrivent sur recommandation d'un autre médecin. Les recommandations médicales font partie de notre service. Apprenez à connaître vos confrères d'autres spécialités médicales et recommandez-les afin qu'ils vous recommandent en retour. Votre équipe d'accueil doit être experte dans la gestion de tous ces types de premiers contacts. Chapitre 2, l'équipe. Trouvez quelqu'un de loyal au cabinet, à même de faire ce pour quoi vous l'avez embauché et de produire les résultats que vous voulez n'est pas facile. Le livre de Gino Wickman, Get a Grip, décrit les processus d'évaluation du personnel comme ayant trois éléments essentiels. La personne qui comprend, qui en veut et qui est capable de le faire. En d'autres termes, le collaborateur parfait est prêt, disponible et capable. Avoir ces trois qualités réunies chez un employé fidèle est essentiel pour des performances optimales. Pour y arriver, des descriptions de postes précises sont primordiales. Si plus d'une personne est responsable d'une tâche, personne n'est responsable. Celles-ci peuvent être examinées individuellement avec chaque membre de l'équipe et collectivement lors de vos réunions d'équipe. Les tâches sont assignées spécifiquement aux individus. Ne laissez rien au hasard. Les membres de l'équipe les plus performants présenteront leurs résultats volontairement. Ils rempliront leurs fonctions et produiront à un niveau supérieur à celui demandé ou même prévu. Traitez ces employés comme de l'or. Ils font de chaque jour dans votre cabinet dentaire une joie. Mais faites attention à vos récompenses. Souvent, en dentisterie, nous commettons l'erreur de promouvoir des membres expérimentés de l'équipe à de nouveaux rôles de coordonnateur de traitement ou de gestionnaire de bureau en fonction de l'ancienneté, plutôt que de la passion ou des compétences. Nous ne réalisons pas qu'un poste de front office dentaire en tant que coordinateur de traitement, coordinateur financier ou directeur de bureau nécessite des traits de personnalité et des compétences complètement différents par rapport au rôle d'assistant dentaire clinique. Chapitre 3, les compétences non techniques. L'acte d'achat utilise l'émotion, pas la logique. La façon dont vous vous présentez et la culture de votre cabinet jouent un rôle important pour que votre patient se sente à l'aise, ait confiance en vos soins et dise oui au traitement. connaître et appliquer ces petits traits de charisme est bénéfique à toute tentative de vendre quoi que ce soit, y compris des soins dentaires. Appelez vos nouveaux patients 2 jours avant le rendez-vous d'examen initial pour un rappel de rendez-vous personnalisé et convivial. Peu importe ce qui se passe dans votre bureau, soyez à l'heure pour l'examen initial. Utilisez le nom du nouveau patient. Soyez bien informé sur le nouveau patient. Souriez. Soyez irréprochable concernant votre tenue et votre posture. Faites en sorte que votre nouveau patient se sente unique, tout en lui rappelant que votre cabinet et le traitement qu'il recevra ici sont également uniques. Les nouveaux patients recherchent l'assurance que le choix de votre cabinet est la bonne décision. Donnez au patient votre parole que vous prendrez grand soin de lui. Terminez l'examen avec une note appréciative. Chapitre 4. Éloge. Tous les membres de votre équipe dentaire doivent connaître vos services de fond en comble. Ils doivent être des défenseurs infatigables du médecin et des services du cabinet dentaire. L'éloge du cabinet commence dès le premier appel téléphonique. Il s'étend ensuite aux documents imprimés envoyés aux nouveaux patients potentiels. Il se poursuit dès le premier accueil jusqu'à la clôture du plan de traitement et pendant les soins. Cela s'applique particulièrement lorsqu'on demande aux patients actuels de référer plus de nouveaux patients. Parler et agir au nom du cabinet ne finit jamais. 3 actions sont indispensables au processus de coordination du traitement pour traduire l'éloge en attitude concrète. Entendre, traduire et revisiter. Entendre, vous ne pouvez pas écouter efficacement si vous êtes en train de parler. Interpréter ce que le nouveau patient vous dit. Analyser ses paroles, ses mouvements, ses expressions faciales et ses silences. Traduire. Allez au cœur de la vérité de votre patient en posant des questions. Assurez-vous que ce qui est compris correspond à ce qui est dit. Revisitez. Tout ce que vous faites doit apporter de la valeur au patient et répondre à ses désirs exprimés et non exprimés. Pour les patients qui ne commencent pas immédiatement le traitement, repassez-vous le film mental de l'examen initial. Invitez-les à revenir pour une consultation et une discussion plutôt que de se décider par téléphone. La plupart des décisions, oui, sont prises en personne, face à face, au bureau. Chapitre 5. Influence. À la fin de la première visite, votre objectif est d'atteindre un oui. Afin d'obtenir ce résultat, il vous appartient d'amener le patient à penser et à ressentir « j'apprécie cette personne, j'aime ce bureau, j'ai confiance en leur capacité, je veux que mon traitement dentaire soit fait ici dès que possible ». Pour ce faire, le psychologue Robert Cialdini décrit 6 principes universels d'influence. La réciprocité. Il existe de nombreux cadeaux inattendus que nous pouvons offrir à nos patients, nouveau comme établi. Les enfants peuvent choisir un jouet dans une boîte à cadeaux, les adultes peuvent recevoir une nouvelle brosse à dents ou un baume à lèvres à la réception. Ces petites surprises s'inscrivent favorablement dans l'esprit de nos patients, contribuant à les fidéliser à vie. L'engagement. Les patients préfèrent toujours voir le même assistant et le même médecin. Notre engagement à maintenir la cohérence dans ce que nous délivrons donne à nos patients un sentiment de facilité et de confort à l'idée de retourner dans notre cabinet et de nous recommander à d'autres. La preuve sociale. Google est peut-être le site de preuve sociale numéro 1 au monde. Les patients vont sur Google pour lire les avis sur votre cabinet. Votre profil et vos avis Google My Business doivent être aussi bons que possible. La rareté. Les gens accordent plus d'importance aux opportunités lorsqu'elles sont moins disponibles. La rareté augmente la valeur. Vos rendez-vous au bureau sont limités. Il est dans l'intérêt du patient de réserver son temps de traitement aujourd'hui afin que le traitement puisse commencer avant que votre emploi du temps ne soit complet pour le mois. L'autorité. Vos patients vont se poser 2 questions. Ce médecin est-il vraiment un expert ? Et dans quelle mesure pouvons-nous nous attendre à ce que cette autorité soit véridique? Les réponses à ces deux questions seront étayées par des preuves, y compris vos années d'expérience, vos photos de cas avant et après, vos diplômes sur le mur et la gestion, l'apparence et le service client de votre bureau. Enfin, l'amabilité. Soyez sympathique. Aidez vos patients à se sentir bien dans leur peau, vous appréciant ainsi personnellement et pas seulement professionnellement tout au long du processus de traitement. Deuxième grande partie, la conversion. Chapitre 6, communication. La communication avec votre nouveau patient lors de la première rencontre déterminera toute votre relation. La confiance sera établie et la valeur de votre traitement dentaire présentée. À chaque communication, vous réaffirmez l'expertise de votre cabinet et votre volonté d'être le fournisseur de soins dentaires idéal pour vos patients. Alors, apprenez à poser les bonnes questions, à définir des stratégies pour expliquer des actes plus compliqués, à présenter les aspects financiers d'un traitement, à répondre à une sollicitation de ristourne, à faire face à un patient qui n'a pas les moyens de payer le traitement dont il a vraiment besoin, etc. Privilégiez également l'engagement immédiat, sous trois formes graduelles. Départ des soins le jour même, la meilleure stratégie dans la mesure du possible. Engagement le jour même, s'il n'est pas possible de commencer les soins, faites au moins signer le plan de traitement à votre patient. Et prise de rendez-vous le jour même, si le patient s'est engagé dans le plan mais ne peut pas commencer aujourd'hui, ne le laissez pas partir sans le prochain rendez-vous prévu, de peur qu'il ne rappelle pas pour l'organiser ou qu'il ait encore des doutes. Chapitre 7. Adéquation. Lors de l'examen initial, vous voulez que votre nouveau patient sente qu'il est au bon endroit au bon moment, mais vous voulez aussi qu'il convienne à votre cabinet. Votre tâche consiste à faire comprendre facilement la valeur de vos services dentaires. Traitez les objections comme des demandes d'informations complémentaires. C'est une citation de Brian Tracy. Évitez les trois erreurs face à la résistance ou à l'incompréhension. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas agressif et n'abandonnez pas. Justifiez toutes les raisons pour lesquelles vos patients devraient choisir votre cabinet, avec des brochures ou des dépliants qu'ils peuvent lire au cabinet et emporter chez eux. Lorsque le patient prétend que les finances le freinent, considérez plutôt qu'il vous dit « Montrez-moi comment je peux payer ces soins ». Demandez quelle est leur objection. Souvent, l'obstacle est financier et vous pouvez convenir mutuellement de conditions acceptables. Il s'agit d'une partie importante de la conclusion de l'accord. Alors, réglez les détails entourant le coût sur le champ. Votre prix doit être annoncé avec confiance, sans hésitation ni excuse. C'est la valeur de votre traitement, le coût de votre expertise et de la qualité de votre proposition. Vous pouvez proposer plusieurs plans de paiement, mais ne jouez pas au jeu du low cost. Il y aura toujours quelqu'un de moins cher que vous. Et si le prix est vraiment l'argument ultime pour ce patient, réalisez qu'il n'est pas le bon patient pour vous, plutôt que de vous dire que vous n'êtes pas le bon dentiste pour lui. N'hésitez pas à refuser sans préavis les patients à l'attitude borderline, grossier ou absent au rendez-vous. Ayez des normes pour accepter les nouveaux patients. Vos autres patients se sentiront encore mieux dans leur peau et flattés s'ils ne vous voient traiter que des bonnes personnes. Chapitre 8. Ajournement. Un certain pourcentage de vos nouveaux patients ne commencera pas le traitement immédiatement. La plupart diront « je dois y réfléchir ». En cas d'ajournement, votre travail consiste à communiquer, à instaurer la confiance et à faire le travail nécessaire pour surmonter les objections persistantes. Ne prenez pas personnellement les réponses du procrastinateur. Il existe 7 excuses courantes pour ne pas entreprendre immédiatement un traitement dentaire. Ce sont le prix, les options de paiement, la commodité, j'ai changé d'avis, j'ai besoin de parler à mon conjoint ou à mes parents, j'ai besoin de plus d'opinions et j'ai besoin de réfléchir. Lorsque vous entendez l'une de ces objections, considérez-la comme un signe positif, indiquant que le patient souhaite recevoir des soins dans votre cabinet. Et prévoyez des réponses pour chacune de ces excuses courantes. N'oubliez pas que sous ces 7 excuses, l'anxiété est un facteur commun dans le processus de prise de décision dentaire. Votre patient ne vous dira probablement jamais qu'il a simplement peur de la douleur, de la dépense, d'un ratage. Votre mission est d'éliminer toutes ces inquiétudes afin que votre patient puisse procéder en toute confiance. Chaque fois que les prospects retardent le traitement, considérez qu'il peut s'agir simplement d'une de ces peurs et répondez-y même si elles ne sont pas exprimées à voix haute. Chapitre 9. Suivi. Avec un bon logiciel de gestion des patients, les dentistes peuvent générer de nombreux rapports et notamment les rendez-vous manqués, les démarrages de soins en attente, les doigts rappelés. Quel que soit le nom que vous donnez à vos listes de patients non programmés, vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de patients en ce moment dans votre base de données, dans l'une de ces catégories nécessitant vos services dentaires. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les contacter d'une manière personnalisée et de leur demander s'ils ont envisagé de commencer leur traitement. Systématisez des appels de suivi dans les 2 jours suivant un examen initial. Ne craignez pas le rejet. Quand quelqu'un dit définitivement non, demandez pourquoi, puis dites-lui qu'il sera toujours bienvenu dans votre cabinet pour un traitement à l'avenir. Passez ensuite au patient suivant. Faites-le en personne. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est le médecin au téléphone, et les patients savent qu'ils ont besoin du traitement. Ils veulent continuer, ils avaient juste besoin d'un rappel et d'une attention personnalisée pour être convaincus de commencer. Deuxièmement, ils en ont parlé, y ont réfléchi, ils ont peut-être ou non opté pour un deuxième avis. Il y a de fortes chances que le diagnostic, le plan de traitement et le coût des confrères consultés soient comparables. Le patient a tergiversé et doit maintenant s'engager, il sera flatté et se sentira important du fait de votre attention personnalisée et sans partage. Chapitre 10. Un réveil. Un réveil, c'est la façon dont l'auteur définit la décision de passer à l'action. Vous devez analyser ce qui vous frustre, ce qui ne fonctionne pas, et décider ici et maintenant d'apporter les changements nécessaires. Vous n'êtes pas satisfait de votre équipe ? Commencez à travailler là-dessus. Définissez la formation dont ils ont besoin, passez en revue leur description de poste, redéfinissez et appliquez les rôles, et si nécessaire, commencez à envisager d'embaucher de nouveaux employés ou de laisser partir ceux qui pourraient ne pas être les meilleurs pour votre vision. Vous n'êtes pas satisfait de la coordination des traitements ? Vérifiez ces dossiers de patients doigts rappelés ou rendez-vous manqués et commencez à passer ces appels de suivi. Vous vous sentez dépassé et avez l'impression de gaspiller de l'énergie sur des tâches ou aspects insignifiants de votre travail ? Commencez à rechercher des processus qui correspondent à votre style et des moyens d'automatiser ces tâches. Quel que soit le problème ou les problèmes, identifiez-les et commencez à les résoudre dès maintenant. Chapitre 11. Les chiffres. L'un des premiers problèmes que vous devriez examiner est celui des chiffres. Sans attention aux chiffres, les dentistes volent à l'aveuglette dans leur entreprise. Sans données, vous ne pouvez pas évaluer où vous en êtes, ni combien vous avez produit ou collecté. Imaginez un match de basket sans score et sans limite de temps. Les joueurs sont-ils motivés pour mettre des points au tableau ? Lorsque vous connaissez le score de votre cabinet dentaire, cela rend plus clair le défi quotidien de développer ce cabinet. N'attendez pas que le comptable examine vos chiffres une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois par an, pour déterminer votre score. Faites-le vous-même tous les jours. Vérifiez votre solde bancaire quotidien. Ouvrez votre propre courrier. Un bureau avec une politique de transparence totale peut examiner les mesures à prendre à chaque réunion d'équipe hebdomadaire et travailler en permanence pour atteindre le même ensemble d'objectifs. Les chiffres ne sont pas que financiers. Connaissez vos chiffres concernant les nouveaux patients, les appels reçus, les examens initiaux, les taux de conversion, les examens manqués, les rendez-vous annulés avec ou sans préavis, etc. C'est la seule façon de savoir où agir en premier. Chapitre 12. Planification. La planification et la priorisation sont l'aspect le plus important de votre passage à l'action. Faites des listes et classez les tâches par importance, les vôtres comme celles de votre personnel. Oui, ce placard a besoin d'être nettoyé, mais pas lorsqu'un nouveau patient appelle la réception et sera renvoyé sur la messagerie vocale à cause de cela. Planifiez vos examens initiaux pour les transformer en processus et en routine. Ayez des scripts complets de réponses détaillées, quelle que soit la question, et apprenez-les par cœur. Planifiez tout. Décidez des objectifs concernant tous les aspects de votre pratique, financiers, ratios de conversion, nouveaux rendez-vous, etc. Et suivez où vous en êtes à mesure que vous approchez de vos quotas quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Passez en revue vos objectifs chaque jour avec vous-même et chaque semaine avec l'équipe. Et n'oubliez pas, lorsque vous atteignez vos objectifs, célébrez. Prenez le temps de savourer votre progression. Organisez une fête avec l'équipe. Célébrez vos réalisations croissantes. Vous avez travaillé dur. Prenez le temps de profiter du moment. Troisième partie, exécution. Chapitre 13, performance. Peu importe le degré de délégation, le médecin, en tant que leader, devra toujours suivre personnellement le résultat des initiatives stratégiques clés. Les rapports hebdomadaires sont un must pour la direction. Prenez le temps de vérifier. Ne présumez jamais que des tâches importantes sont accomplies sans vérification. Les opérations de coordination du traitement devront être systématisées et confiées à des personnes qui sont capables de faire le travail. Mais pas nécessairement par nature. Ils peuvent ne pas être autonomes. Vous vous retrouverez à donner des conseils, une formation et ou des rappels constants. C'est votre travail en tant qu'employeur ou gestionnaire de maintenir la productivité. Il est également de votre devoir de déterminer si chaque membre de l'équipe peut être formé pour fournir les performances dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre bureau. Déléguer et vérifier sont les deux impératifs que vous devez vous imposer et respecter. Vous ne pouvez pas tout faire dans votre cabinet, mais vous devez absolument tout savoir de ce qui s'y fait. Les rapports et les retours concernant vos plans et leur exécution sont essentiels. Travaillez avec votre équipe. Chapitre 14. Planification. Une fois les nouveaux examens terminés, la planification et le rendez-vous de départ des soins constituent la prochaine étape pour développer votre pratique. Votre gestionnaire de planning doit avoir une attitude « faites-le aujourd'hui ». Vous devez maximiser ce que vous pouvez faire au moment présent pour remplir chaque case de l'emploi du temps chaque jour. Il faut être réaliste. Les compagnies aériennes ne gagnent de l'argent que si leurs avions sont toujours en l'air. Le temps libre dans une journée de travail, pour le dentiste comme pour son équipe, devrait être l'exception et non la norme. Si vous souhaitez que votre cabinet fonctionne à sa capacité de production maximale, le médecin, les assistants dentaires et les hygiénistes doivent être programmés avec un patient à tout moment. Formez votre équipe à sortir le nez de l'ordinateur et du téléphone portable et à être disponible et active à tout moment de la journée de travail. La disponibilité est essentielle. L'auteur se souvient d'avoir ajouté 3 jours de travail supplémentaire en juin dernier. Ce petit changement a produit son meilleur mois de l'année. Il peut en être de même pour vous. Gagnez plus de nouveaux patients en étant plus disponible, avec des jours supplémentaires d'ouverture, plus d'heures hors horaire de bureau, peut-être plus de collaborateurs. Plus il y aura de créneaux de rendez-vous à des heures convenables pour les patients, plus de nouveaux patients seront programmés. Chapitre 15. Flux de trésorerie. La production sans collecte, c'est de la charité. Jusqu'à présent, tout dans le livre s'est concentré sur l'examen du nouveau patient et la conversion au traitement. La production est le moteur de votre cabinet dentaire. Mais pour garder votre moteur en marche, vous devez vous concentrer sur un aspect crucial de la coordination du traitement, la collecte des paiements. C'est le carburant qui fait tourner le moteur de votre entreprise. La gestion des services et des systèmes financiers est une fonction importante de votre cabinet dentaire, peut-être la première après l'expérience du patient. Il est ainsi important d'être formé pour saisir et surveiller chaque aspect de la situation financière et de la gestion de votre cabinet, ce sur quoi se concentrent les prochains chapitres. Chapitre 16. Paiement. Est-ce que ce sera en espèces, par chèque ou par carte de crédit aujourd'hui? C'est un script que quiconque est assigné à votre réception doit pouvoir dire avec confiance et facilité. Une chose est sûre, si un employé n'est pas en mesure de demander un paiement le jour du service, il n'a rien à faire à un poste d'accueil. Les patients à qui on ne demande pas de paiement n'en feront très probablement pas, et si un montage financier dans un moment difficile peut renforcer votre relation avec un patient, il doit être exceptionnel et traité comme tel. Ne laissez pas les dettes s'accumuler jusqu'à ce qu'elles ne soient plus réparables. Ayez des jours de collecte fixes. Suivez les retards et leurs conséquences juridiques. N'ignorez pas le moindre paiement en retard ou fractionné, même d'un petit montant. Soyez compréhensif, mais ferme. Chapitre 17. Budgétisation. Faites un budget pour le mois suivant en fonction de ce que vous avez collecté le mois précédent. Les objectifs de pourcentage de votre cabinet peuvent être les suivants. Salaire du personnel 20%, coût de l'établissement 10%, fourniture dentaire 10%, frais de bureau 10%. Les frais de bureau comprennent tous les imprévus, tels que la réparation d'un évier, l'ajout d'une serrure ou l'achat d'une déchiqueteuse. Cela comprend les fournitures de bureau. Tout, du papier aux agrafes. Les frais de bureau comprennent également votre service de nettoyage et l'entretien du bureau. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous encaissez. Pour certains, cela peut sembler beaucoup. Mais une fois que les postes créditeurs sont ajoutés, ce montant de trésorerie diminue considérablement. Les bénéfices représentent votre profit, c'est-à-dire votre résultat net après les dépenses. Les bénéfices ne sont pas toujours améliorés par plus de croissance. Ils sont cependant améliorés par la réduction des coûts. Assurez-vous que les membres de votre équipe connaissent le coût des matériaux utilisés et le montant de vos factures. De cette façon, tout le monde, y compris le médecin, sera beaucoup moins enclin à gaspiller des matériaux ou à donner gratuitement des fournitures ou des services lorsque cela ne fait pas partie d'une stratégie délibérée et précise. Dans son livre « Profit First », Mike Michalowicz recommande également d'utiliser cette équation pour limiter les dépenses. Chiffre d'affaires moins bénéfices égale dépenses. Cette équation diffère de la comptabilité traditionnelle qui répartit ce qui reste sous forme de bénéfices et de gains. Autrement dit, en tant que chef d'entreprise, plutôt que de prendre ce qui reste, fixez-vous un salaire prévu et assignez ce qui reste aux dépenses. Ce n'est pas facile à faire, mais cela garantira que le médecin est payé et que les dépenses restent sous contrôle pour éviter des pièges tels que l'excès de crédit ou des mises à niveau sans fin de l'équipement. Chapitre 18. Rentabilité. En tant que chef d'entreprise, nous sommes pris dans des activités quotidiennes qui nous éloignent du concept de base de la rentabilité. Nous devons nous rappeler que le succès exige que nous vendions un produit ou service dans un but lucratif. Nous ne devrions pas gaspiller de précieux capitaux dans des distractions inutiles que nous appelons souvent être occupé. Occupé est le contraire de productif. Chaque fois que vous vous trouvez sur le point de dire « je suis occupé », demandez-vous « à faire quoi ?» Si ce n'est pas « à faire de l'argent », vous n'êtes pas occupé. Les trois principaux destructeurs de rentabilité en cabinet dentaire sont, selon l'auteur, les patients difficiles. C'est le patient qui demande 5 avis car tous ses dentistes précédents étaient mauvais. Ils ont besoin de 3 diagnostics ou plus avant d'accepter un traitement cosmétique qu'ils ne commenceront finalement pas. Ils passeront une fois par semaine, avec ou sans rendez-vous, pour faire vérifier le moindre souci. Ils voudront rester au bureau pendant des heures. Ensuite, à la fin de ce processus ardu, long et difficile, ils vous donneront une évaluation 1 étoile sur Google. Ces patients nécessitant beaucoup d'entretien coûtent des milliers d'euros en temps, en matériel, en angoisse au bureau, en réputation et en références perdues. Il vaut mieux éviter ces patients comme la peste. Ils vous entraîneront, vous et tout le monde dans votre bureau, vers le bas. Soyez inflexibles sur vos standards. Les médecins impossibles. Ces dentistes sont tellement drivés par un niveau de perfection inatteignable qu'ils deviennent fous, rendent leurs patients mécontents et poussent leur équipe à la limite de ce qui est faisable. Soyez pratiques et résilients et concentrez-vous davantage sur le confort, les besoins, le temps ou les moyens financiers du patient que sur votre quête de perfection. Et enfin, les traitements à refaire. Une fois votre plan idéal terminé, le corps et les dents continueront de changer. Les dents peuvent rechuter ou changer après un traitement dentaire. Les gencives peuvent se rétracter avec le temps, rendant certaines restaurations inesthétiques. En cas de problème, le retraitement sans frais est un tueur de rentabilité. Ces situations ne sont pas de votre faute en tant que dentiste. Le corps humain change. Les objets fabriqués par l'homme se cassent. La nature a ses lois. Vous n'avez pas à être responsable du coût du retraitement pour le reste de la vie de votre patient. Prenez donc beaucoup de photos du résultat final et conservez des dossiers de satisfaction du patient pour chaque cas terminé. Chapitre 19. Mise en œuvre. L'identification et la planification de la résolution des problèmes sont les premières étapes du succès, mais la clé est l'action. L'action est le processus de faire. Ce n'est pas penser et ce n'est pas planifier. C'est la mise en œuvre des tâches qui doivent maintenant être effectuées. C'est l'exécution du travail qui doit être fait. Si vous voulez réussir, vous devez passer concrètement à l'action. Et c'est un travail qui ne peut pas être fait seul. Dans son livre « Traction, Get a Grip on Your Business », Gino Wickman décrit l'incapacité à exécuter comme la plus grande faiblesse de la plupart des organisations. Pourquoi cette difficulté? Il y a deux facteurs, le manque de discipline et la peur du conflit. Les deux peuvent être surmontés par des actions quotidiennes et des réflexions hebdomadaires concernant le rôle de chacun. La responsabilité est essentielle, tant pour le dentiste que pour son équipe. Dans un bureau axé sur la responsabilité, le médecin propriétaire doit disposer d'un système d'évaluation des performances individuelles. Certaines personnes obtiendront des A et se sentiront bien dans le travail qu'elles font. Certaines personnes recevront des notes inférieures. Si la performance est mesurée, les membres de l'équipe défaillants s'amélioreront ou abandonneront d'eux-mêmes. Dans les deux cas, le cabinet est gagnant. La formation et le développement de votre équipe ne régleront pas tous vos problèmes de gestion, mais en limitera les dégâts. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de séminaires de bien-être, d'assister à des conventions ou d'organiser des fêtes. La responsabilité est un travail difficile. Cela peut aussi être coûteux. Mais le coût d'opportunité de ne pas former ou de ne pas garder la mauvaise personne à un poste donné est bien supérieur aux dépenses de coaching ou de développement d'équipe. Chapitre 20. Le succès. Les recommandations peuvent être un excellent indicateur du succès de votre action planifiée. En fin de compte, une fois le traitement terminé, de quelle façon votre cabinet sera-t-il mémorable dans l'esprit de votre patient? Si vous voulez connaître la réponse à cette question, vous devez demander vous-même à vos patients. Soumettez-leur un sondage sur votre service et posez la question essentielle. Quelle est la probabilité que vous parrainiez un ami ou un membre de votre famille? L'entrepreneur en vous demande en réalité à quoi ressemble mon entreprise pour le client et quelle est la probabilité qu'il la recommande à d'autres. Lorsque les patients vous complimentent pour un travail bien fait, profitez-en pour les remercier et demander des recommandations ou des avis publics. Ayez facilement accès à une carte, une brochure ou des cartes de visite parrainées à un ami que que vous pouvez remettre à votre patient satisfait sur le champ, avec un rappel concernant le dépôt d'avis en ligne. Ce n'est pas le moment d'être humble. Laissez vos patients faire votre réputation. En finissant ce livre, la plupart des lecteurs se disent probablement « Hey, je pourrais faire ça ». Oui, vous pouvez, répond l'auteur avec ses recommandations finales. Faites bouger les choses. Passez à l'action pour commencer à mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer vos systèmes de coordination des traitements. Supprimez le chaos de votre cabinet dentaire. Remplacez-le par la discipline, l'ordre, la planification et la croissance. Les processus de coordination du traitement nécessitent un leader, et ce leader, c'est vous. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas seul à faire face aux défis quotidiens que vous rencontrez dans la gestion d'une entreprise dentaire. La coordination de traitement naît de la persévérance. Cela nécessite de l'organisation pour pouvoir suivre, de la persuasion. Lorsque vous dirigez votre entreprise dentaire et que vous employez des personnes pour faire le travail, sachez que ce travail est important parce que vos patients comptent sur vous et qu'ils ont besoin de vos services. C'est à vous de leur dire ce dont ils ont besoin, de leur prodiguer des soins et de résoudre leurs problèmes de santé dentaire. Le traitement doit être fait, donc autant qu'il soit fait par vous. Votre travail compte et vous comptez. Lorsque vous passez à l'action, vos patients commencent à recevoir les soins dentaires qu'ils méritent. Prenez le temps maintenant de remplir votre propre planning « Passez à l'action ». Commencez par les systèmes qui nécessitent le plus de travail dans votre bureau. Pour le bien de vos patients, de votre équipe, de votre communauté et surtout de vous-même, passez à l'action, maintenant.